C'est à n'en pas douter, l'événement majeur à l'échelle planétaire, depuis que l'on a appris que Dieu était en réalité un ballon. Au cours d'un dîner, tout ce qu'il y a de plus officiel, dans les salons de l'ambassade d'Impéritie en Carnabossie occidentale, la marquise de la Tartouillade, un grand nom de la finance mondiale, a déversé l'intégralité de son hoche-pot sur le gilet de l'ambassadeur assis à table à son côté. On ignore les raisons exactes de ce regrettable incident. Le haut-le-cœur magistral dont a été victime la marquise et qui a glacé d'effroi tous les convives était-il dû à une absorption excessive de nourriture et d'alcool divers, ou au comportement de l'ambassadeur, trop occupé peut-être au gré de la dame, à écraser les pieds de son autre voisine, Mag de la Toque, une belle pointure. La gêne qui s'en étant suivie, apparaît-il, était considérable. On raconte que Bruce Cambille, le prince consort, a failli discrètement s'évanouir à la mode de Caen. La scène était trop violente et même surréaliste, comme le disent volontiers les journalistes lettrés, pour cet être fragile tout de délicatesse et de raffinement. On prétend, dans les officines bien informées, car naturellement il y a eu des fuites, que son estomac s'est gonflé comme une outre outragée, et qu'il s'est enfui tel une petite outarde en folie, laissant vacante pour le reste de la soirée une place que tant de jeunes loups rêvent d'occuper. Mais la plupart des personnes présentes ont d'abord fait comme si rien ne s'était passé. Elles n'ont malheureusement pas pu feindre longtemps d'ignorer ce déferlement intempestif de matières incertaines. D'autant que cela s'est passé entre la poire et le fromage. Le repas n'était donc pas tout à fait terminé. Et de plus, la marquise, les premiers instants de stupeur passés, s'est-il agi de sa part d'une malheureuse bévue ou d'une tentative de diversion, a été saisie d'un rire homérique et incoercible qui a laissé de nombreux invités pour le moins dubitatifs. Ce que voyant, la dame n'a rien trouvé de mieux, à coup sûr, cette fois-ci, pour détendre l'atmosphère, que de faire les pieds au mur contre la tapisserie 16e siècle du grand salon sous l'œil stupéfait des accortes et nonchalantes dryades qui s'y prélassaient. On s'est mis à craindre que ces hennissements prolongés, combinés avec ces intempestives galipettes, ne provoque de nouveaux dégorgements. L'ambassadeur avait l'air contrarié. Manifestement, il craignait que la soirée ne fût gâchée. L'équilibre du monde était en jeu, celui de la marquise aussi. Que faire? Dans un premier temps, il feignit de n'avoir rien vu ni rien senti. Mais il flaira bientôt quelque part, comme le dit volontiers mon coiffeur, que son attitude ne pouvait perdurer, comme le disent volontiers les journalistes cultivés. Passe encore que les invités adoptent un air détaché devant les ululements acrobatiques de la marquise. Mais la propre victime de ces débordements incontrôlés ne pouvait continuer longtemps à faire comme si elle ne s'était rendue compte de rien. Il fallait faire quelque chose, mais quoi? Prendre une initiative, mais laquelle? 10 minutes de plus, et la carrière de l'ambassadeur aurait basculé dans un vide vertigineux pour cause d'immobilisme. Dans ce climat de tension presque insoutenable, on ne sait quel obscur majordome eut l'idée saugrenue, mais somme toute pas si folle, de faire signe à l'orchestre qui attaqua un morceau. ce qui mit l'ambassadeur et la marquise collés comme deux mouches à miel dans l'obligation d'ouvrir le bal. C'est alors que le général en chef du grand-duché d'Estomaquie clama d'une voix tonitruante « On dirait du veau !» Ce qui, au fond, n'était pas tout à fait faux, mais n'avait en l'occurrence, il faut bien le reconnaître, aucune signification précise. On glosa d'ailleurs dès le lendemain, dans la plupart des salons à la mode, pour savoir ce qu'il avait bien pu vouloir dire. On finit même par le soumettre à diverses interviews, mais il refusa obstinément de clarifier sa pensée. Les milieux bien informés en tirèrent la conclusion qu'il n'avait peut-être en définitive rien voulu dire du tout. Bref, pour en revenir à cette soirée riche en rebondissements, là où l'on craignit que les choses ne se gâtassent, ne se dégradassent, et pour dire le mot, ne se détériorassent encore davantage, ce fut qu'en corne-cul, le célèbre toréador s'écria foudrage à l'adresse du général en chef « Vous en êtes un autre !» On ignore pourquoi l'homme de lumière s'était senti piqué au vif. Sur ses entrefesses, le président de la République de Bamboli, en l'honneur de qui était organisée la réception, après avoir consulté son ministre des Finances, et dans le but bien évident de détendre à son tour l'atmosphère, cria à la cantonade « Jambon pour tout le monde !» ce qui jeta un froid glacial au sein des délégations du Moyen-Orient. Brusquement, les bretelles de l'ambassadeur cédèrent sous le poids de ses responsabilités. Le pantalon chut, en fit sortir une jeune femme qui suivait un stage pratique à l'ambassade avant qu'il ne soit trop tard. La soirée se termina dans la confusion générale. Les comptes rendus de presse furent calamiteux. Néanmoins, la paix fut maintenue pour quelque temps encore, mais la crise était inévitable. Les milieux bien informés étaient sur les dents. L'ambassadeur fut rappelé dans son pays, il se fit remonter les bretelles. L'impéritie et la carnabossie occidentale rompirent comme il se doit, et comme on le craignait dans les milieux bien informés et dans les salons à la mode, leurs relations diplomatiques. Sur les médias du monde entier, les chroniqueurs déclinèrent, comme le disent volontiers les néo-latinistes, l'incident sous tous ses aspects. De plus, les pays du Moyen-Orient avaient très mal pris l'histoire du jambon. Ils considéraient cela comme une offense préméditée, et certains réclamaient des excuses officielles et une déclaration de repentance. Des charognards mirent en pièces le président de Bamboli pour ses paroles malheureuses, et son peuple finit par le destituer. La tension était à son comble. Le majordome, qui avait pris l'initiative de lancer le bal et que l'on avait fini par identifier, fut décoré de la jartelle triomphante pour son action en faveur d'une grande cause internationale. Mais tout le monde n'était pas convaincu. Certains trouvaient son geste déplacé. Une âpre polémique fit rage dans tous les organes de presse pendant près de 3 semaines. Les milieux bien informés se dressèrent sur leurs ergots. Un émissaire de la Société des Nations se mit à sauter d'un continent à l'autre pour rencontrer les chefs d'État et essayer de calmer leurs ardeurs belliqueuses. Il fut de toutes parts accusé d'ingérence. Le camp pro-impéritie avait adopté un vocabulaire dans lequel figuraient des noms d'oiseaux en quantité non négligeable. Les amis de la carnabossie occidentale avaient choisi quant à eux des termes aquatiques. Les uns et les autres pouvaient ainsi s'insulter dans un langage zootechnique. On chuchotait dans les salles de rédaction que la tartouillade continuait à rire. Une chanson sur elle, « Les dégueulis de la marquise », enregistrée par une vedette internationale, fit un tabac et, par ricochet, la fortune d'une multinationale de disques et de toute la gamme des fabricants de produits annexes et sous-produits y afférents. Pour compléter l'enregistrement, on avait fait appel à moult faiseurs qui pondirent en série des refrains antimilitaristes, antiracistes, humanitaires et bien-pensants. Dans la foulée, ressortirent des versions modernisées de La Madelon, Le Temps des Cerises, Nous irons étendre notre linge, Lily Marlène, Zorro est arrivé et autres grands succès guerriers d'hier et d'aujourd'hui. Les choristes chômeurs furent invités à apporter leur concours bénévole pour cette bonne cause. On leur fit valoir qu'ils ne perdraient pas au change parce que cela les ferait connaître. On reversa le 2% des bénéfices à des organismes qui luttaient contre la faim dans le monde. On laissait entendre que la marquise dirigeait en sous-main un parti clandestin dont le programme était d'abattre l'équipe au pouvoir. On disait même qu'elle faisait élever des milliers de veaux dans le but de les faire déferler sur les plaines centrales de son pays pour affamer les populations autochtones. Les milieux bien informés portaient la crête en berne. Les peuples du monde entier bourraient leurs placards de provisions alimentaires et entassaient les bidons d'essence dans leurs caves pour le cas où le futur conflit perdurerait, comme disent volontiers les journalistes cultivés. Mais les observateurs expliquaient que de nos jours, les guerres sont très courtes et que de toute façon, il fallait rester serein car le conflit ne pourrait être que local et que le mieux était de voir les choses du bon côté, c'est-à-dire à la télévision. Les milieux bien informés étaient sur les genoux. Enfin, la Société des Nations imagina une sage solution pour assainir la situation. Au fin fond de l'océan Pacifique, on retrouva deux minuscules pays qui vivaient en marge de l'ère du temps et que la communauté internationale avait complètement oublié. Pour un faux problème de frontières, on les arma à outrance, on les monta l'un contre l'autre, on les chauffa à blanc jusqu'à ce que leurs populations respectives finissent par s'étriper. Du nord au sud, et d'est en ouest, l'on prit parti et l'on développa de magnifiques théories agrémentées de concours, sondages, jeux vidéo et sauce béarnaise. On fit de splendides photos et de pathétiques reportages qui remportèrent un succès encore jamais égalé. Les parts de marché zigzaguaient à vous couper le souffle. Il paraît que la tortouillade n'arrêtait plus de hurler de rire. Il y eut des milliers de morts, mais Dieu merci, cela ne porta d'aucune manière atteinte à l'équilibre économique du monde et au portefeuille de la marquise. Comme le disent volontiers les néo-onanistes, à se tordre.